France Inter, le 18-20.
Un coup oui, un coup non, un pas en avant, un autre en arrière. Dans le passo-doble des rythmes scolaires, on se marche un peu sur les pieds pour être honnête. Voilà qu'on est en train de revenir à la semaine de 4 jours. Le gouvernement, à la rentrée de septembre, avait laissé le choix, souvenez-vous. Et selon une étude réalisée par l'Association des maires de France, la plupart des communes veulent revenir à l'ancien système, 43,4% très précisément. Et c'est 8% de plus que ce qu'on avait imaginé à la rentrée. Là où ça devient beaucoup plus difficile à lire, c'est que ces choix ne répondent à aucune logique géographique, ni aucun niveau de vie finalement des communes qui abritent une école. Chacun apparemment cherche son tempo. Alors est-ce qu'on écoute la petite musique des maires? Est-ce qu'on écoute la petite musique des enseignants? Est-ce qu'on écoute celle des parents? Est-ce que c'est pas ce mélange finalement qui fait bouger les rythmes et les enfants, eux, suivent parce qu'ils savent s'adapter avec leur gros cartable? Alors, chez vous, comment ça se passe, enseignants, parents, mères? Venez nous raconter, venez poser vos questions. À vous de nous faire entendre la petite musique du téléphone sonne. Soyez bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et les bienvenus même, parce qu'on espère bien que vous serez nombreux. D'ailleurs, vous le serez, puisqu'il y a beaucoup de questions au téléphone sonne ce soir. C'est avec vous qu'on commence, Régis. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir,
Régis.
Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis le papa d'une petite fille qui est scolarisée donc en cours élémentaire. Et donc, lors de la mise en place de la réforme par Monsieur Payon, la commune, la mairie avait mis en place une réflexion approfondie avec des groupes de réflexion enseignants, élus et parents. Et nous avions convenu de la mise en place de la réforme sur 4 jours et demi, en proposant même le samedi matin, persuadé que pour le bien-être de l'enfant, cette réforme était utile. Or, le gouvernement actuel revient en arrière, nous met devant le fait accompli de choisir ou de réfléchir à revenir, et donc, à nouveau, nous nous voyons imposer une réflexion qui nous oblige à nous réunir. Mais une fois encore, la mairie qui avait mis en place ces rythmes très sérieusement avec des intervenants de qualité, nous allons, parents, enseignants et élus, nous remettre autour de la table, même ceci au niveau du canton, afin de voir ce qui est le mieux pour le bien-être de l'enfant. Et je veux même dire que la mairie, très soucieuse de cela, a fait intervenir une intervenante de qualité qui est Madame Claire Lecomte, qui est chronobiologiste et qui fait le tour de France pour essayer de défendre cet intérêt qui est occulté bien trop souvent.
Merci beaucoup pour votre question, Régis. C'est vous qui ouvrez le bal, et cette incompréhension sur un jour dans un sens et puis on va se réunir, on va le refaire dans l'autre, elle est assez générale dans les questions au téléphone sonne ce soir. Pour vous répondre, Régis, et pour participer à cette discussion avec nous ce soir, Agnès Lebrun est là en duplex de France Bleu, Brézizel à Quimper, merci à eux aussi. Agnès Lebrun, vous êtes maire de Morlaix, vous êtes aussi vice-présidente de l'Association des maires de France. Francette Popineau est avec nous ce soir, secrétaire générale du SNU, FSU, premier syndicat enseignant du primaire, et Liliana Moyano, bonsoir à vous, vous êtes présidente de la FCPE.
Bonsoir.
Sonia Bourane, spécialiste éducation à France Inter, autour de la table aussi. Tiens, Francette Popineau, je vais commencer avec vous. Ce qu'on sent dans Patrice, c'est une espèce de déconcertation, en fait. Régis, pardon. Oui, alors on s'est réunis une fois, on a décidé ça, et puis on va devoir le refaire. Alors visiblement, ils le font sérieusement. Mais ça fait beaucoup de réunions en peu de temps, finalement.
Alors déjà, là, on a un exemple qui est assez...
qui est très sérieux.
Qui est très sérieux et qui est assez peu commun, puisque là, on a mis autour de la table tous les acteurs concernés, que sont les enseignants, les parents et les élus. Et à travers ce que dit votre auditeur, il s'agit de bien parler de l'enfant et de mettre l'enfant au centre. On est loin de cela dans beaucoup d'endroits. Et le recul que propose le ministre, puisqu'il faut le lire, comme ça, c'est depuis la réforme de toute façon des rythmes, on en est au troisième décret dérogatoire. C'est dire si cette réforme effectivement avance, recule, se bouge, et qu'elle n'a pas été pensée suffisamment en amont et qu'elle n'a pas été suffisamment concertée, puisque on en est là aujourd'hui. Et ce nouveau recul, on peut le lire comme ça en tout cas, était là aussi pour dire que là où il y avait des zones de tension, là où effectivement il ne s'agissait pas du rythme de l'enfant, mais plutôt de parler du périscolaire ou d'organiser les choses à travers le périscolaire, pour toutes ces organisations qui pénalisaient finalement l'organisation de l'école au profit des élèves, on pouvait revenir en arrière. Mais normalement, il ne s'agit pas, là où ça fonctionne, de revenir en arrière. Il s'agit de simplement, les zones de tension, de permettre de revenir à une organisation précédente.
Liliana Moyano, ce qu'on a du mal à comprendre, et le témoignage qu'on vient d'entendre en est aussi la preuve, il y en aura beaucoup comme ça, c'est à la fin, qui décide en fait ? Qui est la main ? Est-ce que ce sont les mairies qui poussent ? Est-ce que ce sont les enseignants qui parlent ? Est-ce que ce sont les parents ? On a l'impression que tout ça est très très mélangé. La preuve d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de disparités, il n'y a aucune logique en fait dans les 4 jours et les 4 jours et demi en France.
Absolument, et ce qui est regrettable quand même, c'est que sur une question aussi importante, on ne s'est pas donné le temps nécessaire du bilan, parce qu'effectivement il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais ce que nous avions demandé, c'était d'ailleurs des conseils départementaux de l'éducation spécifiques pour faire le bilan autour des PEDT, des projets éducatifs des territoires, parce que aussi la question importante de cette réforme, c'est que pour une fois, on prenait en compte l'ensemble des temps éducatifs de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas seulement l'école, mais tous les temps de vie. Et on essayait d'harmoniser ça. Et on essayait effectivement de mobiliser la communauté éducative autour de l'intérêt de l'enfant. Parce que là, on parle beaucoup d'intérêts d'adultes. C'est-à-dire les intérêts des élus et cette possibilité de la liberté, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça s'appelle comme ça, donner aux communes d'organiser la semaine comme ils le souhaitent. Et ça s'adresse principalement aux élus. On a parlé des élus, des enseignants, des parents. Mais l'intérêt de l'enfant, on se pose la question. Et une réforme aussi importante, il fallait laisser vraiment le temps de la poser et de faire le bilan.
Et une élue, on en a une au téléphone, c'est Agnès Lebrun. Je vais vous donner la parole dans une seconde. Je voudrais qu'on entende Patrice d'abord. Bonsoir Patrice, soyez le bienvenu. Bonsoir. Au téléphone, on vous écoute.
Bonsoir, merci de prendre ma question et merci à France Inter pour la qualité des émissions. Oui, je voulais apporter un peu un témoignage. Je suis papa de 2 élèves en élémentaire, en primaire et maternelle. Donc on est totalement concerné par cette réforme et par ces rythmes scolaires. Et donc là, cette année, la municipalité est venue vers les parents d'élèves via les conseils d'école pour sonder les parents d'élèves, savoir si on était prêt à maintenir les nouveaux rythmes scolaires ou alors repasser sur la semaine de 4 jours. Alors, particularité quand même, c'est que dans le sondage, il était bien précisé que si on devait garder la 4 jours et demi, on allait passer sur une augmentation de 300% du tarif des temps d'activité, parce qu'on allait devoir augmenter pour pouvoir pallier au manque de subventions de l'État. Alors voilà, c'était... Là, on est un peu...
Donc le vote a été biaisé. Vous dites que le vote a été biaisé, en gros,
Patrice.
Voilà,
c'est-à-dire que l'enquête est un peu biaisée, parce que il est clair que pour certains parents, ce sera très compliqué de pouvoir pallier financièrement. Et quelque part, on en est obligé aussi, parce qu'on n'aura pas le choix de toute façon d'avoir les enfants au niveau des rythmes. Mais pour autant, on se pose quand même la question. Surtout, la première question qu'on voudrait se poser, c'est où en est l'intérêt de l'enfant dans ce questionnement-là. Première chose, c'est vraiment le fondement de la réforme, elle était liée à l'intérêt de l'enfant, votre intervenante vient de nous le rappeler. Mais là, on se repose la question, où est l'intérêt de l'enfant ? Deuxième chose, on parlait du bilan, le ministre Blanquer a dit sur vos ondes, il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas, il y avait un bilan qui était arrivé sur son bureau, qui ne montrait pas d'efficacité au rythme. Alors j'ai lu ce bilan, et on peut s'apercevoir que d'abord la méthodologie au niveau de l'enquête, du bilan, on s'aperçoit qu'il y a eu tellement de différentes manières de mettre en place ces rythmes scolaires, c'est que c'est pas comparatif, ça peut pas être comparatif possible, donc on peut pas en tirer de conclusion.
Patrice, voilà, rapidement, si vous voulez bien conclure, pour qu'on ait un peu d'auditeurs.
Donc je voulais dire, moi, c'était ma question, ça porte sur est-ce que véritablement on prend en compte l'intérêt de l'enfant ? Est-ce qu'il y a encore, comme disait le ministre, vraiment encore des financements disponibles ? Parce que ça, je voudrais aussi en parler avec la municipalité. Et puis, troisième chose, je voudrais aussi dire que sur les territoires ruraux dans lesquels je suis, on a, des associations sociales, sportives, ont recruté des personnes pour s'occuper des enfants sur ces temps-là.
Et on va y venir.
Le fait qu'il va y avoir un arrêt des activités, ça va forcément amener des licenciements ou des réorganisations et des pertes d'emplois.
Merci beaucoup,
donc,
Patrice.
Ça dépasse tout ça, en fait.
Patrice,
voilà.
je vais instaurer un buzzer, je crois, dans le téléphone sonne. Au-delà d'une minute, la question sera buzzée. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrice. Merci pour votre question. Agnès Lebrun, vous qui êtes le vice-présidente de l'Association des maires de France, est-ce que c'est des choses qu'on a parfois mis dans les mains des parents ? Attention, conservez suspendez les activités périscolaires, voilà combien ça peut coûter en plus.
C'est pas exactement comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, je voudrais rappeler que ce qui est important pour la journée de l'enfant, avant de parler de périscolaire, c'est le scolaire. C'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant, dont on parle beaucoup et dont tout le monde, évidemment, a conscience de l'importance, et y compris les mères, et surtout les mères, je dirais, pour les plus jeunes de leurs administrés, ce qui est important pour l'enfant, c'est d'abord le temps scolaire. Ensuite, il y a eu cette réforme qui nous a imposé de façon extrêmement injonctive et verticale, la réforme de Madame Belkacem, qui nous a imposé de nous débrouiller avec des moyens extrêmement réduits pour organiser des temps d'activité périscolaire. Par conséquent, lorsque le ministre Blanquer, et j'entends bien la demande de stabilité, parce que tout le monde l'a, la demande de stabilité, mais lorsque le ministre Blanquer a entendu notamment les résultats de l'enquête de 2016 que nous avions organisée à l'Association des maires de France, lorsque le ministre Blanquer nous dit... nous, mairie, qui nous ne nous occupons pas du temps scolaire, mais qui avons en gestion le premier degré, lorsqu'il nous dit « est-ce que vous voulez revenir aux 4 jours ou rester aux 4 jours et demi ?» en passant par, évidemment, la consultation du conseil d'école, c'est-à-dire en consultant les parents d'élèves, en consultant les enseignants, en consultant tout ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre de ces temps d'activité périscolaire, eh bien, évidemment, nous remettons le travail sous l'ouvrage et nous regardons ce qui est le mieux
pour
l'enfant.
J'ai compris le sens de ma question et de celle de Patrice, c'était est-ce que parfois il est mis dans les mains des parents des arguments et ça arrive, et je comprends que tout ça soit à un moment, ça coûte plus cher et est-ce qu'on met ça dans les mains des parents ? Attention, ça va être plus cher.
Non, il y a une première réalité, c'est que un enfant dont le temps d'activité périscolaire est confié à la mairie coûte à peu près 250 euros par an. D'autre part, la question telle qu'elle est posée, excusez-moi de le dire, est légèrement biaisée puisqu'elle laisse entendre, est-ce qu'on n'a pas fait du chantage auprès des parents en leur disant, vous pouvez dire que vous voulez revenir conserver les 4 jours et demi, sachez que ce sera payant.
C'est pas forcément du chantage, si c'est une réalité, pardon.
Non, oui, mais dit comme ça, effectivement la question a été fermée et effectivement c'est compliqué pour les parents de répondre s'ils n'ont pas l'argent. Moi, ce que j'observe là-dedans, c'est que il me semble me souvenir que la réforme, lorsqu'elle avait été mise en place par le ministre précédent, M. Blanquer, la réforme, elle visait à de l'égalité de traitement. Sauf que dans cette histoire, on avait confondu deux choses. On avait confondu l'égalitarisme et l'égalité. L'égalitarisme est doctrinaire et l'égalité ne l'est pas. Et dans l'égalité, il n'y a pas forcément donné la même chose à tout le monde. Il y a... prendre en compte les spécificités territoriales, les PEDT lorsqu'ils sont les projets éducatifs du territoire lorsqu'ils sont mis en place, et lorsque chaque commune qui œuvre jour après jour pour ses jeunes administrés a déjà mis des choses en place ou doit en mettre d'autres, eh bien c'est là-dessus que ça se construit. Mais vous savez, dans l'enquête de 2016, il y avait déjà un tiers des communes qui étaient obligées de faire participer financièrement les parents.
Je voudrais qu'on écoute Ronald qui nous a appelé au téléphone. Sonne. Ronald, bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Inter.
Merci à vous. J'étais surpris parce que lors de la réforme des rythmes scolaires, il y a 3 ans, on nous avait parlé d'un rapport qui mettait en avant que les rythmes de l'enfant étaient mieux par rapport aux apprentissages sur une semaine de 4 jours et demi. Et l'autre jour, le nouveau ministre d'Éducation, qui était chez Nicolas Demorand, je crois, a dit qu'il y avait un nouveau rapport qui prouvait que c'était la même chose. Alors je trouvais ça un peu bizarre sur une étude aussi précise, en 3 ans, qu'on puisse avoir des résultats aussi différents.
Et vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question, Ronald. Sonia Bourane, peut-être, pour un élément de réponse.
Alors, il n'y a pas eu vraiment d'étude qui a été faite en profondeur. La seule étude dont on dispose, c'est l'étude de l'ADEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui en fait a comparé les différentes organisations qui ont été mises en place sur les 4 jours et demi. Soit on diminue la journée, soit on libère, on allège 2 après-midi, soit on libère complètement le vendredi après-midi, par exemple. Et donc, le seul résultat qu'on a eu, c'est cette étude a montré qu'en fait, il y avait très peu de différence selon les organisations sur la semaine, sauf avec le vendredi après-midi libéré, où là, on voyait des effets, notamment pour les enfants de milieux défavorisés, où là, les apprentissages étaient moins bons. Mais sinon, il n'y a pas eu d'étude de comparaison entre la semaine de 4 jours et la semaine de 4 jours et demi.
Françoise Popineau, je vous voyais faire oui avec la tête. Effectivement, on manque de données, en fait, vous pensez ?
On manque de données, et pourtant, pourtant, on aurait pu en avoir et elles auraient pu présider avant la mise en œuvre de la réforme des rites, puisqu'on avait deux grosses villes, celle de Poitiers et encore plus grosse, celle de Toulouse, qui fonctionnent depuis plus de 20 ans avec 4 jours et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire si les élèves de Poitiers et les élèves de Toulouse ont de meilleurs résultats ou réussissent mieux d'une manière générale que les autres élèves? On avait ces éléments-là, on n'en a rien fait. C'est-à-dire que cette réforme, elle a été conçue rapidement, dans la précipitation, sans la concertation et sans l'accompagnement. On l'a vu, sans l'accompagnement des communes qui ne savaient pas si l'aide allait être pérennisée, sans l'accompagnement des familles parce que ça constitue un bouleversement quand même, et sans tenir compte aussi du rythme l'enfant dans sa globalité. C'est-à-dire que là, on s'appuie beaucoup sur les chronobiologistes qui nous parlent du rythme biologique, mais le rythme de l'enfant, c'est aussi son rythme social, c'est aussi son rythme dans la famille. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc on était vraiment loin de toute cette réflexion qu'il aurait fallu mener pour y arriver.
Sonia, rapidement, parce que je sais qu'Agnès Lebrun voudrait intervenir.
Oui, on a aussi effectivement des études des chronobiologistes qui disent tous que les apprentissages sont meilleurs, par exemple, le matin. Donc ça, c'est une évidence pour tout le monde, on le sait.
Et il y a beaucoup de questions, effectivement, qui viennent sur ce sujet, qui parlent surtout de l'exception française, parce que, à part nous, je veux piéger personne, mais qui d'autre en Europe, par exemple, est resté sur un rythme qui ressemble au nôtre? Et qui a un rythme, voilà. Je voulais être sûre qu'on était bien les derniers,
Et la France, c'est d'ailleurs un pays dans lequel on a à peu près 40 jours en moins d'école par rapport à d'autres pays. Effectivement, on est sur une exception française assez particulière, mais je voulais réagir à ce qui a été dit. Je pense que sur le projet de la réforme des rythmes, il y a eu quand même, je serai moins sévère, il y a eu la concertation, il y a eu en tout cas le constat que rester à la semaine des 4 jours était extrêmement fatigant et qu'il fallait mener cette réflexion et qu'il fallait surtout mener effectivement la réflexion sur les temps de l'enfant, les différents temps de l'enfant, celui de l'école, mais celui après dans les activités. Et enfin, cette réforme-là a mené quelque chose d'important, c'était de permettre à tous les enfants, quelles qu'elles soient leurs conditions, leur situation géographique, leurs conditions sociales, d'avoir accès à des activités de découverte, puisqu'avant la réforme de RIM, il y avait à peu près 26% seulement d'enfants qui avaient d'autres activités en dehors de l'école.
Agnès Lebrun, je sais que vous vouliez réagir, et c'était notamment quand on parlait de cette fameuse étude qui était sur le bureau du ministre Blanquer.
Oui, parce que je crois qu'en fait, mais Mme Popineau l'a très bien dit, la réforme qui a été présentée a été tellement injonctive et verticalisée que, évidemment, pour essayer en quelque sorte de faire passer la pilule, si vous me permettez l'expression, nous a fourni, et à nous élus également, des études qui, évidemment, avaient pour but d'aller dans le sens de la réforme qui était imposée. La vérité, c'est que, évidemment, nous sommes tous très demandeurs d'une étude qui prenne en compte la globalité du rythme de l'enfant. Et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, mais pas seulement le rythme scolaire, mais le rythme social, le rythme sociétal, serait-on tenté de dire, le rythme familial. Enfin, il y a une volonté, je crois, en tout cas, nous l'avons entendu comme ça au Congrès des maires de France, lorsque le ministre Blanquer s'est exprimé, il y a une volonté de sa part, en concertation avec tous les acteurs du monde éducatif ou péri-éducatif, de mettre en place une étude, mais qui prennent véritablement l'ensemble, non seulement du rythme de l'enfant, mais aussi l'ensemble de l'année scolaire. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas tabou de se pencher sur la longueur des vacances, sur ce qu'on appelle les petites vacances. Enfin, il y a des intérêts qui sont bien éloignés parfois des intérêts de l'enfant.
Ah ben,
Et bien sûr. Et notamment des intérêts économiques, mais qu'on peut entendre également. Mais
il y a beaucoup d'intérêts particuliers, Agnès Lebrun, les mairies, les centres de loisirs, les parents, les enseignants, etc. Hein. Il y a beaucoup d'intérêts particuliers qui jouent Liliana Moyano.
Concernant également les études et les études qui apparaissent là. Une réforme comme celle-là demande du temps. Et effectivement, c'était extrêmement, disons, difficile à arriver à avoir l'impact au niveau des apprentissages, au niveau de la fatigue et au niveau de la vie et des rythmes de l'enfant avec une réforme qui se mettait à peine en place, en sachant la difficulté qu'il y a eu, les territoires dans lesquels elle ne s'est jamais mise en place véritablement. Donc, une fois de plus, une réforme pareille a besoin de temps de poser les choses pour avoir la distance nécessaire.
Et c'est vrai que quand on change tout le temps, on a un peu de mal même à étudier finalement les rythmes des enfants, probablement. Simon, bonsoir. Simon, est-ce que vous êtes là?
Oui, oui, je suis là.
Bonsoir, soyez le bienvenu sur Inter, on
merci,
vous écoute.
Merci beaucoup et merci pour la qualité des émissions. Moi, je voulais juste faire un petit témoignage parce que je suis directeur de centre de loisirs du côté de La Rochelle, dans une petite commune. Et donc, quand on a mis en place la réforme des rythmes scolaires, donc en 2014, nous, on est parti en 2014 et non en 2013 pour prendre plus de temps pour mieux penser le projet et que ce soit vraiment bénéfique pour les enfants. Et on fait partie des communes où ça se passe très bien, où il y a réellement un fort attachement au rythme scolaire de la part des familles, de la part des enseignants, de la part de la mairie, de la part de l'association qui organise aussi ces différents temps périscolaires. Et vraiment, on a réussi à tous se rassembler pour l'enfant, pour le bénéfice de l'enfant, et pour lui proposer des activités qui soient à la fois ludiques, récréatives, qui soient innovantes, qui soient aussi en complémentarité des enseignements. On fait on a des parcours qui sont vraiment construits avec les enseignants, avec les enfants, où l'enfant a une place essentielle et une place centrale au sein du projet. Les enfants construisent leur parcours avec les animateurs. Et vraiment, bah, on est sur l'accompagnement. Et puis, voilà, moi, je voulais apporter ce petit témoignage d'une commune où ça se passe très bien, où tout le monde est ensemble autour de l'enfant. Et l'enfant participe également et il est au cœur de son projet éducatif.
Et vous n'avez visiblement pas changé de rythme, donc de ce que j'entends, Simon, Françoise Popineau, ce qu'est en train de nous expliquer Simon aussi, c'est qu'effectivement, il y a eu de la préparation avant, il y a eu de l'attention pendant et aujourd'hui toujours. Et c'est ce qu'on répète probablement depuis le début de cette émission, la clé est là, trop vite amenée, trop vite enlevée, oui. Trop vite réfléchie, tout
et
ça.
Et c'est ce que nous répétons d'ailleurs depuis le début de cette réforme, c'est qu'effectivement, c'est le temps de la concertation, c'est un temps long. Donc il faut donner ce temps, sinon effectivement, on voit bien que là, ça n'a pas marché. On s'est heurté à un certain nombre de choses. Et là, on a des exemples où l'enfant est au centre. Il ne faut pas oublier que cette réforme, elle avait une promesse. Hein. C'était aussi de permettre aux élèves de mieux réussir leur scolarité. On voit bien qu'avec des organisations bancales, parce que je crois que le débat, ce n'est pas 4 jours ou 4 jours et demi. C'est si on observe les 4 jours et demi, on trouve tout un tas d'organisations très différentes, dont certaines qui nous ont été relevées, qui sont extrêmement bancale, où la DSEM quitte la classe parce qu'elle va ensuite faire l'animation du périscolaire, où les siestes sont tronquées chez les petits, où la pause méridienne, donc entre midi et deux, s'est allongée, c'est une pause qui dure 2h, 2h20, 2h30, parce que ça permet de décaler un petit peu la journée et d'avoir moins de périscolaires derrière. Donc ce témoignage, il dit quoi? Il dit aussi qu'il faut un service public de qualité sur tous les temps de l'enfant. Sur le temps scolaire, bien évidemment et prioritairement, mais aussi sur les temps autour de l'enfant, qui sont les temps en dehors du moment où il n'est plus en classe. Donc c'est tout cela qu'il faut penser. Ça ne peut pas se penser à la vitesse où ça s'est pensé, sans accompagnement et sans que les enseignants, qui sont quand même aussi au cœur, sans que les familles soient vraiment attachées et que ce bouleversement social soit pensé par tous.
Cette question qui nous vient de Claire et qui nous écoute depuis Montréal et qu'on salue si loin là-bas. Je vous écoute donc depuis Montréal, où nous vivons depuis un an. Albin, qui est en CE1, à l'école 5 jours par semaine de 8h10 jusqu'à 14h30, avec possibilité de garde jusqu'à 18h. Ce rythme est beaucoup mieux adapté car il y a plus d'apprentissage le matin, le même rythme chaque jour et moins de vacances qui viennent couper les périodes d'apprentissage. Là aussi, effectivement, c'est ce qu'on disait Liliana Moyano. Peut-être que le tabou des vacances aussi devrait être mis sur le tapis en même temps qu'on change ces rythmes-là.
La question du calendrier scolaire, de l'architecture du calendrier scolaire, la FCPE a beaucoup travaillé là-dessus. Effectivement, nous ne pouvons pas continuer dans l'organisation actuelle. Et c'est une organisation qui ne correspond plus à rien. Et pour nous, là, c'est un très mauvais signal parce qu'effectivement, on parle de la densité, de la fatigue, de l'exception française avec des semaines. Parce que là, avec cette liberté donnée aux communes, on va aussi créer quand même une sacrée inégalité. Mmh. C'est-à-dire que vous allez avoir des enfants qui vont avoir 4 jours d'école et plus rien peut-être, et d'autres qui vont avoir 4 jours et demi pour le même programme. Le programme n'est pas allégé.
Et donc, une fois de plus,
c'est souvent les enfants qui sont le plus en difficulté, avec des familles qui sont également en difficulté, qui vont être considérablement mis à mal. Tous les rapports pointent le système éducatif français comme étant très inégalitaire. Donc, et nous, la question du temps et la question du calendrier annuel est une question qui doit être sur la table. Nous demandons au ministre, effectivement, d'ouvrir ces travaux-là de toute urgence.
Sonia Bourhanin. Il faudrait revoir le calendrier, mais alors, selon vous, qu'est-ce qui bloque? Ce sont les enseignants, par exemple.
Écoutez,
pourquoi
il
c'est
faut
tabou
pas...
cette histoire de vacances?
Parce que effectivement, c'est une organisation extrêmement ancienne. Effectivement, qu'il y a des équilibres, disons, au niveau de la communauté éducative qui se trouve là sur la question de. Parce que je pense que derrière la question du calendrier va se poser alors la revalorisation peut-être des salaires des enseignants, etc., etc. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont derrière. Il y a des enjeux également économiques. Il y a des organisations, mais il faut pas, comment dire. Éviter et faire l'autruche avec ça. Cette calendrier ne correspond plus à rien. Les vacances, par exemple, d'été sont beaucoup trop longues parce que aussi la question des rythmes pour l'enfant, c'est la question des ruptures entre des périodes de pause extrêmement longues et des périodes de travail beaucoup trop ramassées. C'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, effectivement, sans tabou, il faut poser les choses et il faut peut-être ouvrir d'autres chantiers derrière la question d'une nouvelle architecture.
Françoise Popineau, on change l'architecture ou pas?
En tout cas, il faut repenser les choses.
Ça a été pire. Hein. Moi, je me souviens d'être rentrée à l'école le 15 septembre quand j'étais gamine. Ça a été donc beaucoup plus long à une période. Même.
Oui. En tout cas, oui, il faut reposer les choses. Mais on voit bien que cette réforme des rythmes qui semblait justement répondre un petit peu aux préoccupations, qui voulait répondre aux préoccupations de l'élève, elle s'est heurtée toute seule au calendrier annuel qui n'a plus trop beaucoup de sens quand à la fin, l'élève a 12 semaines consécutives de travail. On voit bien que tout cela n'est pas à penser comme dans son entier, de façon systémique. Donc, il faut repenser les choses. Le calendrier scolaire se heurte aussi, il faut le dire, au tourisme de montagne, qui nous impose quand même deux périodes, février et puis avril, avec des zones qui alourdissent énormément un calendrier. Donc, il faut trouver quelque chose avec une articulation que nous, on défend de 8 semaines de travail pour 2 semaines de rupture, qui peut donner un rythme. Et tout ça doit être repenser, mais effectivement, il faut penser tout cela, et y compris en pensant aussi aux âges des enfants. On ne travaille pas de la même manière quand on a 3 ans que quand on en a 10.
Justement, tiens, c'est le sens de la question de Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions et de permettre l'échange et le débat.
Allez-y.
Alors, je suis enseignante en maternelle et j'ai remarqué, puisque j'ai fait tous les rythmes, je crois, depuis que j'enseigne, je suis repassée à la semaine des 4 jours cette année et nous sommes vraiment très, très contentes, nous, l'équipe enseignante. Mm-hmm. Les années passées, on a fait les 4 jours et demi avec des enfants de maternelle. On s'est confronté à des pleurs sans cesse parce qu'il y avait des changements d'adultes. Les petits ne comprenaient pas pourquoi ils restaient en station debout à attendre leurs animateurs, à être figés dans une cantine. Et puis nous, le jeudi matin, c'était effrayant. On avait des enfants surexcités, extrêmement fatigués. Mmh. D'où ma question, est-ce qu'on peut faire une différence effectivement entre des enfants entre 3 et 5 ans qui sont à l'école maternelle et les plus grands où effectivement le rythme d'apprentissage est totalement différent.
Merci beaucoup pour cette question Valérie. Agnès Lebrun, je ne veux pas vous faire parler sur un sujet qui n'est pas le nôtre, vous qui êtes vice-présidente de l'Association des maires de France, mais cependant cette différence d'école, effectivement petite et grande, maternelle et au-delà, est-ce que ça fait partie des choses dont on discute effectivement dans les mairies au moment de maintenir ou de changer le rythme scolaire?
Bien sûr, alors on ne discute pas dans les mairies, on discute en général les écoles avec les conseils d'école, donc avec les parents et les enseignants. Et je peux vous donner un chiffre qui va un peu dans le sens de ce que vient de dire la personne qui vient d'intervenir. Dans notre dernière enquête, donc nous avons rendu public la semaine dernière, les principaux motifs avancés par les communes qui sont revenus à 4 jours, c'était d'une part les parents, 83%, et 71% les enseignants. Et les motifs invoqués pour 72%, c'était la fatigue des enfants. Mmh. Et cette fatigue des enfants, il y a eu une espèce de voile sur cette affirmation que l'on rencontrait pourtant matin, midi et soir. C'est-à-dire que on ne croisait pas un parent, un enseignant, une ATSEM qui ne nous indiquait pas que les enfants étaient très fatigués. Alors effectivement, la réflexion, c'est ensuite est ensuite allé du côté de la différenciation possible entre maternelle et puis primaire, mais c'est évidemment extrêmement compliqué. Tout ça est déjà très compliqué, et je crois qu'on peut considérer que nous sommes dans une première phase, c'est-à-dire dans une phase de mise à plat, et qu'ensuite, effectivement, et je confirme ce qui est dit tout à l'heure, ce qu'il faut maintenant, c'est ouvrir large le débat, mais sans être sectaire, sans être doctrinaire, en se basant bien sûr sur les enquêtes scientifiques, sur les observations scientifiques, mais il faut aussi être très vigilant à ce que cette flexibilité territoriale, c'est-à-dire celle que nous avons revendiquée, puisque les communes, évidemment, sont librement administrées par les élus qui ont été désignés par le peuple. Donc, il est important que nous puissions librement administrer nos communes, mais cette flexibilité territoriale, elle ne doit pas amener une fracture territoriale. C'est-à-dire que l'égalité républicaine, ça reste le socle. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des usages, il y a des habitudes, il y a des milieux sociaux, il y a des photographies sociologiques que l'on peut faire sur les communes, dont on doit tenir compte et qui doivent coller le plus possible à ce moment-là aux besoins des enfants. Et les maires n'ont pas d'autre ambition, je dois le dire, les maires n'ont pas d'autre ambition que de rendre heureux et performants, je ne sais pas, mais épanouis scolairement les plus petits de leurs administrés.
C'est sûrement aussi l'ambition des professeurs, des instituteurs et aussi des parents, et je n'en doute pas des maires aussi. Agnès Lebrun. Jean Glavany nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir, monsieur Glavany.
Bonsoir.
Et on vous écoute, vous voulez réagir, vous, pour nous parler de ces fameuses études de rythme, effectivement.
Oui, parce que quand je faisais de la politique, il m'est arrivé d'être maire d'une commune des Hautes-Pyrénées de 2500 habitants en 89, et j'étais passionné par ces histoires de rythme scolaire et qui étaient déjà débattues dans le monde de l'éducation. Et donc j'ai mis en œuvre cette réforme 30 ans avant tout le monde en 89. J'étais pas le seul, il y avait quelques dizaines de communes qui l'avaient fait à travers la France. Et on a fait cette réforme, celle qui a été mise en œuvre il y a 2 ans, si je dois dire, d'une manière très maladroite, très confuse, mal financée, mais qui était une réforme faite autour de l'intérêt de l'enfant. C'est ça que je comprends pas, qu'on oublie systématiquement. L'intérêt de l'enfant français, c'est d'avoir des rythmes mieux établis et mieux étalés. Toutes les comparaisons internationales montrent que les journées des élèves français sont les plus lourdes du monde, d'Europe en tout cas, et même parmi les plus lourdes du monde. Et on veut nous faire croire qu'on peut encore raccourcir la journée scolaire, la semaine scolaire. Ça n'a aucun sens. Et dire qu'il n'y avait pas d'études pour ça me paraît ahurissant. J'ai été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale en 92-93. Des études sur le sujet, il y en avait plein. Plein les archives de l'Éducation nationale. Alors, il faut les retrouver. Il y a même un rapport de l'Académie de médecine. Des comparaisons internationales. Moi, j'ai fait tout ce travail en 88-89 et j'ai essayé de le poursuivre après sur la base de ces études internationales. Alors, quand on me dit il n'y a pas d'études, il y a quelque chose qui me paraît totalement ahurissant.
Et en même temps, monsieur Glavany, vous reconnaîtrez avec moi que, effectivement, si ces études existent et que chacun dit depuis 20, depuis 30 ans que le rythme n'est pas le bon, pourquoi est-ce que, même avant, et y compris lorsque vous étiez aux affaires, vous et les autres, d'autres aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé à un moment ces rythmes, et peut-être de manière un peu plus, un peu mieux faite peut-être, mais c'est quand même curieux aujourd'hui de nous ramener à des études qu'il y a 30 ans en se disant, pourquoi du coup on ne l'a pas fait avant et de manière mieux organisée, non?
Parce que cette réforme était une réforme indispensable, elle a été faite tardivement et maladroitement, j'en conviens, il y a 2 ans, mais c'était une excellente réforme, seulement elle a tellement été mal expliquée, notamment on s'est fixé sur le transfert de charges sur les collectivités locales, qui était un vrai problème, mais qui n'était pas le centre du débat, sur l'organisation des ateliers scolaires, mais c'est comme le disait ce maire tout à l'heure, d'une petite commune qui a dit « mais ça se passe très bien chez nous ». Vous ne pouvez pas savoir ce que ça s'était bien passé aussi dans ma commune, où il y avait une mobilisation de tout le tissu associatif, du club sportif, des associations culturelles. On avait fait des choses absolument magnifiques, et tout ça se passe souvent très bien. Et on s'est focalisé sur des gens qui disaient « mon fils est plus fatigué qu'avant ». Mais c'est pas vrai, votre fils, il fait du sport, il est plus fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Par contre, il apprend mieux. Mais oui, bien sûr. Alors que s'il décroche en classe, l'après-midi, comme toutes les études le montrent, c'est de la mauvaise fatigue. Monsieur... Et parce qu'il apprend moins bien. Et donc, je comprends pas qu'on nous dise aujourd'hui, Mais il n'y a pas d'études qui nous permettent de comparer véritablement. Mais bien sûr que si, il y a des études. On en a tant qu'on en veut.
Merci pour votre témoignage, monsieur Glavany. Merci de votre petit aller-retour dans le téléphone seul. Je voudrais qu'on écoute Sylvie, parce qu'il nous reste 2 minutes seulement. Et Sylvie, ça fait presque une demi-heure que vous attendez. Il nous reste 1 minute
oui.
même. C'est pas bien. Je suis désolée. Allez-y. On vous écoute, Sylvie.
Oui, bonsoir. Merci. De toute façon, c'était extrêmement intéressant d'entendre tous vos interlocuteurs. Moi, je suis institutrice maternelle dans la région parisienne. Alors, monsieur Glavany, là, ça m'a un petit peu énervé ce qu'il a dit, parce que si effectivement il y a des études aussi précises, je ne comprends pas pourquoi, au moment de la mise en place de cette réforme, on n'a pas imposé les mêmes rythmes du nord au sud de la France, et que finalement, en tout cas dans ma commune, ça a été comme ça, et je sais que dans beaucoup de communes, ça a été le cas, c'est le maire qui a tranché au niveau des horaires et qui nous a imposé, en l'occurrence dans ma commune, c'est 2 journées qui se terminent à 15h l'après-midi, 2 journées qui se terminent à 16h30, ce qui veut dire que les enfants font quand même 2 journées de 6h d'affilée, alors que normalement la réforme aurait dû l'interdire.
Sylvie, je ne vais pas vous presser, mais comme il nous reste 30 secondes, si vous pouviez aller votre question, pardon, hein, mais il nous reste 30 secondes.
Ce n'est pas vraiment une question, mon témoignage, c'était que cette réforme, effectivement, on l'attendait beaucoup, mais qu'elle a été non seulement mal faite, mais de façon tout à fait disparate, et que non seulement les enfants sont fatigués, mais comme une de mes collègues le disait, nous sommes, nous aussi, les enseignants, extrêmement fatigués par ces journées qui ne respectent aucun rythme régulier.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvie. Françoise Popineau, ce sera juste vraiment pour la conclusion. Elle est à vous, vous avez 10 secondes.
Juste pour dire que c'est pas l'alpha et l'oméga, il faut aussi penser à modifier la taille des classes, ça c'est très important. Il faut repenser le temps de travail des enseignants, il faut repenser la formation.
Et ça nous en fera des téléphones sonnent. Merci à tous, merci pour vos questions.
Merci.
Et bonne soirée.